Merci, Pasteur Doris. Je voudrais dire merci au Seigneur et au couple Bomboko, docteur Bomboko, ma sœur et docteur Cécile Bomboko, pour cette opportunité qui m'est choisie ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. Eh bien, ce matin, j'aimerais que nous donnions d'abord gloire au Seigneur. Alléluia. Acclamons-le. C'est lui qui mérite toute la gloire. Et j'ai beaucoup aimé quelque chose depuis ce matin, alors que mon frère qui va partir bientôt à Boma priait, il disait « donner gloire à Dieu ». Et lorsque nous avons prié avec les autres, il parlait toujours de donner gloire à Dieu. Eh bien, je crois qu'ils étaient dans l'esprit, c'est l'esprit du Seigneur qui nous parlait. Bien, ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose que je tire du livre d'Habacouc. On aurait pu lire simplement le chapitre 3, mais pour être dans le contexte, j'aimerais qu'on lise quelques versets des différents chapitres. Lisons d'abord Habacouc 1, du verset 1 au verset 4 et au verset 6, et puis nous lirons Habacouc 2, du verset 1 au verset 4, et puis nous lirons Habacouc 3, du verset 1 au verset 4 et du verset 16 au verset 19. Habacouc 1, 1 à 6, oracle révélé à Habacouc, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Habacouc 2, verset 1 au verset 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Et nous allons lire Habacouc 3, du verset 1 à 4 d'abord. Prière d'Habacouc, le prophète. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de tes mains, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Et du verset 16 au verset 19, j'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront des pâturages et il n'y aura plus de bœufs dans les étables toutefois. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vous propose un thème. Quand le plan de Dieu diffère de notre plan dans le temps. J'ai lu une histoire qui m'a beaucoup fasciné. Je pense que ça va toucher certains d'entre vous. Il s'agit de William Cowper. C'est un auteur des hymnes. Il était proche de John Newton. John Newton, c'est celui, il est un ancien marchand d'esclaves qui s'est converti et qui a composé les paroles d'un chant que nous chantons souvent, Amazing Grace, grâce infinie. Et William Cowper, c'est quelqu'un qui a lutté pendant longtemps contre la dépression mentale. Il était hanté par l'idée que Dieu ne l'aimait pas. Malgré son désir profond d'aimer le Seigneur, malgré son désir profond de croire dans la parole de Dieu, dans ses promesses, eh bien, il avait cette impression que Dieu ne l'aimait pas à cause de sa maladie qui demeurait. Il a même été interné durant près de deux ans. Et quand il est sorti, il a trouvé la force dans la prière. Non seulement dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, et même dans la communion avec des frères. Mais voilà, un soir, il y avait un brouillard épais à Londres, parce qu'il vivait à Londres. Et dans ce brouillard épais, il était si déprimé qu'il a décidé de mettre un terme à sa vie. Il a appelé le cocher, son conducteur de voiture, si je puis l'appeler ainsi. Il a appelé le cocher pour le conduire à la Tamise. La Tamise, c'est le fleuve qui traverse Londres. Et il voulait aller se jeter sur le pont de la Tamise, ainsi en finir avec la vie. Eh bien, le brouillard était si épais, je ne sais pas si vous avez été dans un brouillard. Nous qui sommes à Kimbondo, parfois vous n'arrivez pas à voir la personne qui est devant vous, ou la véhicule qui est devant vous, vous êtes obligé d'allumer les phares. Eh bien, le brouillard était si épais que le cocher était désorienté. Ils ont fait des tours. À un certain moment, William Cowper en a eu marre, il était fatigué. Il a dit à son cocher d'arrêter. Il est descendu pour voir là où ils étaient. Ils étaient devant, juste devant la porte de sa maison. Et c'est là où il a réalisé, il a compris que Dieu l'aimait. Alléluia. Oui, William Cowper a compris, la main visible de Dieu l'avait guidé jusqu'au seuil de sa maison. Lui qui pensait que Dieu ne l'aimait pas, eh bien, se tenait devant une preuve irréfutable de l'amour de Dieu. Oui, c'est la façon où Dieu a touché William Cowper et lui a dit, je t'aime, William. Et depuis ce jour-là, il a décidé de vivre pour Dieu. Et il a composé un hymne, les paroles d'un hymne aussi. God moves in a mysterious way. Dieu agit d'une manière mystérieuse. Et j'aime bien les premières paroles qui sont dans ce cantique. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. God moves in a mysterious way. Le premier couplet dit, Dieu agit d'une manière mystérieuse pour accomplir ses merveilles. Il imprime ses pas dans la mer et chevauche sur la tempête. Alléluia. Bien-aimés, ne prenez jamais une décision définitive pendant une saison de brouillard. Il y a quelques jours, j'ai eu le témoignage d'une sœur qui est en province. J'étais en mission en 2011. Et pendant que je prêchais, la sœur passait à côté de l'église. Elle voulait aussi se suicider. Et entendant la prédication, elle est rentrée dans l'église. À la fin du culte, elle a cherché à me voir. Et nous avons prié. Bien-aimée, elle vient de fêter 50 ans. Elle qui, en 2011, n'avait que 35 ans, voulait se suicider. Et je me souviens encore, alors que je voulais partir, elle m'a offert un ananas et 1000 francs. Mais aujourd'hui, elle est inspecteur dans l'enseignement. Ne prenez jamais une décision définitive pendant une saison de brouillard, bien-aimée. Ne confondez jamais le brouillard qui vous empêche de voir Dieu avec l'absence de Dieu. Même caché, la providence de Dieu demeure toujours à l'œuvre. Alléluia. Pourquoi Dieu permet-il la maladie mentale à Isaac? Je ne sais pas. Mais une chose, je peux vous l'assurer, que Dieu l'aime plus qu'il ne peut l'imaginer. Et dans la Bible, c'est pour ça l'histoire de Habacuc m'a fasciné. C'est pratiquement, vous verrez que Habacuc, c'est un homme qui priait pour le réveil dans sa génération. Habacuc, Dieu l'a touché d'une manière particulière. Au départ, Habacuc, il était arrogant. Habacuc, il priait, il exigeait le réveil. Il était certain que Dieu devait répondre à ce qui lui semblait bon. Dieu devait répondre à ce qui lui semblait spirituel. Du reste, la prière pour le réveil, n'est-ce pas une prière conforme à la volonté de Dieu? Eh bien, Habakkouk était certain que Dieu devait répondre à sa prière. Et il ne pouvait pas comprendre pourquoi Dieu ne répondait pas à une bonne chose comme il s'attend. Vous savez, lorsque vous priez selon la volonté de Dieu et que Dieu ne répond pas, ça devient un problème. N'est-ce pas? Et c'est pour ça, quand j'ai pensé à au message d'aujourd'hui, pendant longtemps, je voulais l'intituler « Quand Dieu dit non à votre prière ». Mais j'y ai réfléchi. Quand le plan de Dieu diffère de notre plan dans le temps. Bien-aimés, dans les moments où nos prières restent sans réponse, quand Dieu semble tarder à répondre, pire encore, quand vous recevez une réponse à l'opposé de ce que vous avez demandé, bien-aimés, vous pouvez sombrer profondément dans le découragement ou bien vous pouvez apprendre ce que Habakkouk a appris. Une leçon très importante. Habakkouk reçoit une réponse totalement différente de ce qu'il demande. Comme je l'ai dit, Dieu agit souvent d'une manière mystérieuse, d'une manière où les hommes ne peuvent pas comprendre. Les desseins de Dieu sont incompréhensibles à l'homme. Combien de fois, parfois j'ai prié Dieu, et incroyable, d'une manière incroyable, j'ai eu des réponses rapides. Mais parfois, j'ai dû prier pendant des années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est Dieu m'a répondu après des années. Dieu agit d'une manière incompréhensible à l'homme. Son plan diffère parfois de notre plan, et son temps n'est pas toujours le nôtre. Et c'est ce qu'enseigne ce livre d'Habakkouk. Au lieu d'être, et ce que j'aime quand je regarde Habakkouk, au lieu d'être en colère contre Dieu, parce qu'il aurait pu être en colère contre Dieu, comme beaucoup le font aujourd'hui, au lieu de développer un ressentiment contre Dieu, au lieu d'arrêter de prier, au lieu de développer un amour froid envers Dieu, eh bien, Habakkouk a pris cette prière. Et il a développé, je dirais, cette prière est devenue une opportunité pour Habakkouk pour grandir dans sa communion avec Dieu, pour grandir dans son intimité avec Dieu, pour grandir dans sa connaissance de Dieu, alléluia, pour grandir dans sa confiance en Dieu, pour grandir dans sa foi en Dieu. Habakkouk, on connaît peu de choses sur le prophète. La seule chose que je puis vous dire, c'est qu'il a exercé son ministère au temps du roi Josaphat. C'était vers 605 avant Jésus-Christ, c'était avant que les Babyloniens ne puissent envahir Juda. Habakkouk, vous avez trois chapitres, et vous verrez que c'est pratiquement un dialogue entre Habakkouk et le Seigneur. Et Habakkouk 3:1 à 19, c'est une merveilleuse prière que j'aimerais que vous puissiez vous approprier aujourd'hui. Nous ferons un saut rapide sur ce livre, dans les minutes qui me restent. Le premier chapitre, quand Dieu répond différemment. Habakkouk 1, 2. Jusqu'à quand, ô Éternel? N'est-ce pas la prière de quelqu'un? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on apprend des jugements, et l'on rend des jugements iniques. N'est-ce pas? J'ai eu l'impression qu'Habakkouk était en train de prier pour notre temps. Habakkouk voit la déchéance morale de Judas et il prie pour un réveil. Mais considérez le ton d'Habakkouk. Habakkouk a un ton pressant. Et je dirais même un ton condescendant. C'est presque un ton qui est presque supérieur. C'est comme si l'État te dit, Seigneur, fais ceci. À autant, à ce temps-là, agis de telle manière. Parfois, j'ai vu des hommes qui priaient à la télévision. C'est comme si j'étais en train de commander Dieu. Comme s'ils exigeaient que Dieu fasse une certaine chose. Que Dieu fasse de la manière qu'ils veulent et qu'ils le fassent au moment qu'ils ont choisi. Ils parlent comme si Dieu devait agir selon leur volonté, de la façon qu'ils veulent et au moment qu'ils exigent. Habacuc s'impatiente. Jusqu'à quand dois-je attendre? Pourquoi tardes-tu d'intervenir? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Pourquoi Dieu ne répond-il pas encore? N'est-ce pas la question que plusieurs se posent? Je me souviens d'une maman qui était trompée par son mari pendant longtemps. Un jour, on était ensemble, elle priait, est-ce que Dieu, tu vois? N'avez-vous jamais eu l'impression que Dieu n'écoutait pas? N'avez-vous jamais eu l'impression que vous n'avez pas assez prié et vous êtes allé un peu partout, sur les montagnes, d'église en église? Parfois, on s'est posé la question, quelle est l'utilité de la prière si Dieu ne me répond pas? Mais regardez pour le cas d'Habacuc, verset 5. Dieu va répondre. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Imaginez, vous êtes en train de prier et que vous recevez une telle prière. Tout à l'heure, quand je lisais, je faisais attention pour sentir la réaction. J'ai entendu « Amen ». Bien-aimé, je crois qu'Habacuc jusque-là a dit « Magnifique ». C'est super, Dieu va me répondre au-delà de ce que je lui ai demandé. Eh bien, Dieu va répondre au-delà de mes attentes. Mais bien-aimé, ce n'est pas ça que Dieu était en train de dire à Habacuc. Ce n'est pas ça que Dieu était en train de dire à Habacuc. C'est pour ça, lisez toujours la Bible dans le contexte. Beaucoup de ceux qui viennent du fait qu'on prend un verset, qu'on le tire de son contexte. Mais qu'est-ce que Dieu était en train de dire à Habacuc? Verset 6. Voici. Je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse des vastes étendues du pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Donc, loin d'annoncer immédiatement le réveil, eh bien, Dieu préparait un jugement. C'est comme si Dieu était en train de dire à Habacuc, j'ai entendu ta prière. Tu demandes le réveil. Mais tu dois attendre. Tu as demandé une certaine bénédiction. Et Dieu te dit, oui, j'ai entendu ta prière. Tu demandes telle ou telle autre chose, mais tu dois attendre. Les choses ne vont pas se passer telles que toi tu imagines, ni dans le moment où que tu exiges. Pour l'instant, Habacuc, je suscite un peuple païen, un peuple brutal, un peuple sanguinaire, les Babyloniens, ils envahiront Juda et conduiront ses habitants en exil à Babylone. C'est ça que Dieu a annoncé. Et je crois que là, Habacuc tombe de nu. Mais Seigneur, ce n'est pas pour ça que j'ai prié. Je n'ai pas demandé pour que mon peuple soit conquis. Je n'ai pas prié pour que mon peuple soit amené en exil, en terre étrangère. Bien-aimé, Habacuc découvre ici une chose. Dieu répond véritablement à nos prières, mais pas toujours comme nous l'espérons. Alléluia. Dieu répond véritablement à nos prières, mais pas toujours comme nous l'espérons. Avant le réveil, Habacuc, Dieu peut devoir confronter son peuple qui est devenu présomptueux. Il peut devoir d'abord purifier un peuple qui est devenu présomptueux. Vous savez, les enfants d'Israël, durant 200 ans, Dieu a envoyé des prophètes pour leur dire de se repentir. Depuis Esaïe, Osée, ils ne sont pas revenus. Écoutez la réponse qu'Habacuc va donner au Seigneur quand Dieu lui annonce que les Babyloniens vont envahir. Juda, verset 12. « N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint ?» Nous ne mourrons pas. Ouh, présomption. Comment un Dieu miséricordieux peut-il agir ainsi envers son peuple? Comment le Dieu d'amour peut-il permettre à une nation plus méchante de punir son propre peuple? Et souvent il disait, voici le temple. Lisez dans le livre d'Esaïe. Parce qu'ils avaient le temple, ils ont cru que Dieu ne peut pas détruire le temple. La présomption, bien souvent, nous dit, voici le temple, Je suis loin de l'Éternel. Dieu ne permettra rien contre moi. Et Dieu dit, mon peuple m'a été infidèle pendant 200 ans. Je lui ai parlé par les prophètes. Ésaïe 28, verset 9 à 10. Lorsque Dieu a envoyé Ésaïe, j'aime bien lire ça en français courant. En français courant, on nous dit ceci. Voici ce que le peuple, on répond. Il se demande, à qui cet Ésaïe veut-il faire la leçon et expliquer ses révélations? À des enfants fraîchement sévrés, à des bambins qu'on vient doter du sein de leur mère? Écoutez-le, blablabla, et patati, et patata. Mon peuple a compromis ma vérité. C'est ce que Dieu dit. Mon peuple est devenu idolâtre. Mon peuple a besoin de se repentir. Bien-aimés, ne prenons pas la patience de Dieu pour son approbation. Repentons-nous pendant qu'il nous parle encore, avant que son calendrier n'arrive à son terme. Et cessons de dire blablabla à sa parole. Abandonnons l'orgueil et repentons-nous. Et une chose que j'aimerais que nous puissions retenir, parce que nous avons toujours, je suis loin de l'Éternel. Oui, loin de l'Éternel, sache ceci. Aucun titre, ministère ou lieu sacré ne remplace l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu protège ceux qui marchent avec lui et non pas ceux qui se cachent derrière son nom pour refuser la correction. Et le peuple a dit, nous ne mourrons pas. Chapitre 2. Voyons la perspective de Dieu, la vision de Dieu. Comment Dieu voit les choses? Dieu voit les choses selon son plan, selon son calendrier et ses desseins, plutôt que selon nos seules attentes. Et nous devons voir les choses selon le calendrier de Dieu, selon les desseins de Dieu, selon le plan de Dieu. Et plutôt que qu'en regardant nos seules attentes. Habakkuk 2, du verset 2 à 4. Dieu lui dit, et j'aime bien cette partie, c'est un peu comme si Dieu était en train, ah bon, vous ne mourrez pas. Et Dieu lui dit, oh Habakkuk, au fait, avant que tu n'oublies, écris la prophétie. Grave-la sur des tables de pierre. Et si vous avez les mots qui sont là, c'est écrit de manière claire et intelligible, afin qu'on la lise couramment. Ouais. Ce n'est pas seulement une vision qu'on doit conserver, mais c'est une vision que l'on doit rendre claire pour qu'elle puisse être bien comprise, non seulement retenue, mais qu'elle puisse être annoncée. Le temps fixé est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Vous dites Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? En 605, eh bien, les Babyloniens sont venus. Ils ont envahi Juda. Daniel et ses compagnons sont partis. Quelques années après, les Babyloniens sont venus parce que le peuple ne voulait pas comprendre. Et ils ont pris Ézéchiel et des notables et ils sont partis. Et plus tard, quelques années après, et bien parce qu'ils ne voulaient pas toujours pas comprendre, Dieu a détruit le temple. Et là, c'est perdu depuis lors. C'est ça la prophétie. Oui, écris-la. Écris cette révélation. Parce que j'ai un peuple au 21e siècle, à la bannière, qui doit entendre cette prophétie. Oui, le jugement viendra. Mais regardez, au cœur de cette prophétie, il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Habakkuk 2, 4, la partie B. Le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire au reste fidèle? Tout le monde ne sera pas détruit, mais au reste fidèle, Dieu dit ceci, peu importe à quel point il fait noir. Peu importe le nombre de défis auxquels nous sommes confrontés, peu importe ce que l'avenir nous réserve, peu importe les souffrances qui nous attendent, peu importe ce que fait l'économie, peu importe ce que fait la politique, ou ne fais pas naïvement, Dieu dit, je suis au contrôle de l'histoire. Je suis le gardien de mon peuple fidèle. Alléluia. Ce verset est crucial. Ce verset est fondamental. C'est la parole de Dieu. Et on voit que ce verset est repris même dans le Nouveau Testament, Romains 1, 17. Et ce verset a été à la base du réveil avec la réforme de Luther. Alors, des questions. Combien de temps dois-je crier à l'aide? Ne te soucie pas du sang versé. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi tardes-tu? Eh bien, Dieu nous répond de la même manière qu'il a répondu à Habakkuk. Quand Dieu permet aux barbares d'être à la tête de notre nation, il ne veut pas que nous le blâmions, lui, mais que nous nous rapprochions de lui. Comment allons-nous nous rapprocher de lui? Y a-t-il quelque chose dans ma propre vie que je dois changer? Y a-t-il un domaine dans ma vie où, par indifférence ou négligence, je n'accomplis pas? Y a-t-il quelque chose que je dois reconnaître ou abandonner? Pour mon cas, c'est un trait de caractère. Et regardez la différence. Ce n'est pas des questions, nous ne posons pas des questions à Dieu, mais ce sont des questions que nous nous posons à nous-mêmes. Vous voyez la différence? Ce n'est pas Dieu que nous devons blâmer, mais nous devons nous poser des questions à nous-mêmes. Et regardez le chapitre 3, la transformation qu'Habakkuk va vivre. Quand vous lisez entre le chapitre 1 et chapitre 3, vous verrez que Habakkuk apprend trois attitudes qui sont essentielles à la prière. Il passe de l'exigence à l'humilité. Il passe de la plainte à l'adoration. Il place de l'attention portée sur ses propres problèmes, eh bien, à la recherche de la gloire de Dieu. Premièrement, s'humilier. Habakkuk 1 et 2. Excusez-moi, Habakkuk 3.2. Ici, j'ai fait une erreur. Habakkuk 3.2. Voici ce qu'Habakkuk dit. J'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Habakkuk dit que j'ai entendu ce que tu as annoncé. Et il dit, accomplis tes œuvres, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et j'aime bien le mot qui est traduit par compassion. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ce mot fait référence au sein maternel. Vous savez que c'est l'amour d'une mère. Ouh, je me souviens alors que nous étions encore au Katanga, sur le lac Tanganyika, on voyageait dans les barques à moteur. Et nous étions tout petits. Et je vois maman qui se couchait pratiquement sur la bordure et nous gardant dans son sein pour que nous ne puissions pas basculer dans le lac. Fou, l'amour d'une mère. Alléluia. Souviens-toi de tes compassions. Souviens-toi de ta miséricorde. Oui, accomplis ton œuvre. J'ai entendu. Ici, vous voyez, Habakkuk s'humilie. Il cesse de dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Souviens-toi de ta miséricorde. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est à cause de sa miséricorde. Nous ne méritons rien. Tout ce que Dieu fait, ce que vous êtes, ce qu'il vous donne, c'est à cause de sa miséricorde. Exode 15, verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit ton peuple. Tu as délivré ce peuple. Nombre 14, verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Néhémie 9, 19. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Alléluia. Lui qui a commencé par dire, Dieu, où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas à ma prière? Combien de temps vais-je attendre? Eh bien, quelque chose de merveilleux se passe. Et je prie que cela nous arrive tous ce matin, bien-aimés. Dieu veut nous voir briser. Dieu veut nous voir dans l'humilité. Pas à quel point nous sommes meilleurs dans ce que nous faisons pour Dieu. Dieu veut voir la repentance au lieu de l'autosuffisance. Comment nous approchons-nous de Dieu? Dieu résiste aux orgueilleux. Ce qui attire sa réponse, c'est un cœur brisé, c'est un cœur repentant, c'est un cœur humble. La deuxième chose qu'Habakouk a apprise, je ne lirai pas. Mais si vous lisez à partir du verset 3 jusqu'au verset 15, vous pouvez le réaliser. C'est l'adoration. Adorer, c'est reconnaître qui est Dieu, même lorsque tout demeure difficile. Alléluia. Reconnaître qui est Dieu, même si tout reste difficile. L'adoration, c'est l'expression de notre amour pour le Seigneur. Combien de temps passons-nous en présence du Seigneur, ne demandant rien, simplement déversant notre amour sur lui? Je ne vous demande pas de lever votre main. Mais tout au long du chapitre 3, vous ne pouvez pas vous empêcher. Moi, je ne peux pas m'empêcher de ressentir l'émotion de l'adoration, de la révérence qu'Habakouk a pour la nature éternelle de Dieu. L'adoration, la révérence qu'Habakouk a pour la puissance de Dieu qui éclipse le soleil même et la lune. La révérence et l'adoration qu'Habakouk a pour la justice de Dieu, pour sa délivrance passée. Vous avez l'impression qu'Habakouk est émerveillé. Bien-aimé, l'adoration recentre l'âme sur Dieu, pas sur les circonstances. Habakouk regardait Dieu à travers les mauvaises, je dirais, les mauvais bouts du télescope. Vous voyez le télescope quand vous devez voir un astre qui est lointain. Il regardait Dieu à travers le mauvais bout du télescope. Et en regardant Dieu de ce côté-là, il a vu que Dieu était injuste. Dieu était indifférent. Mais une fois qu'il a tourné ses yeux, pour les braquer sur la justice de Dieu, pour les braquer sur la nature éternelle de Dieu, pour les braquer sur la puissance de Dieu, eh bien, toutes les choses sont devenues insignifiantes. C'est vrai qu'à l'époque d'Habakouk, le peuple de Dieu méprisait Dieu, comme dans notre génération. À l'époque d'Habakouk, le peuple considérait le Dieu du ciel et de la terre comme une divinité principale dans une mosaïque de divinités. Oui, il était le Dieu principal à côté d'autres dieux. Aujourd'hui encore, c'est vrai, nous disons, nous venons à l'église, nous lisons la Bible, mais qu'est-ce qui préoccupe vraiment notre esprit? Qu'est-ce qui préoccupe vraiment notre temps? Qu'est-ce qui préoccupe notre énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, semaine après semaine? Bien-aimé, il ne peut y avoir de prière efficace sans comprendre vraiment qui est Dieu. Dieu, ce n'est pas simplement quelqu'un vers qui nous allons juste quand nous avons besoin de quelque chose, non. Il ne peut y avoir de prière efficace sans comprendre ce que signifie prier le Dieu de l'univers. Et quand je regarde dans notre Afrique, beaucoup de chrétiens disent avoir la bonne doctrine, mais j'ai l'impression que nous avons une connaissance superficielle de Dieu. Ils attendent que Dieu fasse tout ce qu'ils veulent. Le mot adoration vient du mot latin qui dit honorer Dieu. Lui ouvrir son cœur, déverser son amour et reconnaître sa valeur. Ouh, j'aime bien ça. Seulement, montrer à Dieu qu'il vaut ce qu'il vaut pour moi. Quand nous adorons Dieu, nous lui montrons ce qu'il vaut pour vous. Qu'est-ce que Dieu vaut pour vous? Est-ce que votre vie le témoigne-t-il? La manière dont vous vivez, est-ce que cette manière témoigne ce que vous dites que Dieu vaut pour vous? La troisième chose qu'Habakouk a apprise, chercher la gloire de Dieu. Alléluia. Désirer ce qui plaît à Dieu avant tout ce qui nous arrange. Je sais que vous êtes en train de prier pour beaucoup de choses. Est-ce que ce que vous cherchez, c'est d'abord ce qui vous arrange, ou bien vous cherchez la gloire de Dieu? Habakouk 3, 16 à 19, nous avons lu, et je vais le relire encore. parce que c'est vraiment édifiant. Ici, Habakkuk dit, j'ai entendu. Et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Oui, il semble accepter le verdict de Dieu. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, ou le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, alléluia, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est ma force. Bien-aimé, Habakkuk demandait à Dieu le réveil. Il s'est demandé pourquoi Dieu ne le faisait pas. Bien-aimé, un vrai réveil, c'est quand les morts spirituels deviennent vivants par la puissance du Saint-Esprit. Et seulement par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des gens naïfs qui pensent fabriquer le réveil en réunissant 50 000 hommes dans un stade qui chantent et dansent disant le nom de Jésus et croient que le réveil va tomber de cette manière. Bien aimé, ce n'est pas ce que dit la Bible. La réunion peut être émotionnelle. Habakkuk réalise que le réveil ne viendra pas tant que le peuple refuse de se repentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce matin? Le réveil ne viendra pas tant que le peuple refuse de se repentir. Et il découvre à cet instant-là, même l'exil babylonien devient un instrument pour le réveil. Alléluia. Même l'exil babylonien devient un instrument pour Dieu. Pour le réveil, comment? Pendant l'exil, ils étaient dans la souffrance. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Plus tard, vous verrez, ils vont revenir. Il y aura des hommes qui vont chercher la gloire de Dieu. Et cela va arriver au temps d'Esdras et de Néhémie. Pratiquement 150 ans après Habakkuk. Et vous, si vous regardez dans l'histoire de l'Église, vous verrez le réveil, que ce soit avec Luther, que ce soit avec les Wesley, que ce soit en Amérique ou ailleurs. Bien aimé, le réveil, c'est chaque fois qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont cherché la gloire de Dieu d'abord. J'espère que vous comprenez. Le réveil, c'est quand nous cherchons la gloire de Dieu d'abord, quand nous cherchons que Dieu soit honoré, quand nous cherchons que Dieu soit obéi, quand nous cherchons que Dieu soit reconnu, même si sa volonté ne correspond pas à nos intérêts. Voulez-vous voir la gloire de Dieu ou simplement résoudre vos problèmes? Cherchez-vous le réveil ou cherchons-nous le réveil pour résoudre nos problèmes moraux, sociaux, ou bien cherchons-nous le réveil pour la gloire de Dieu? Voilà la différence, nos motivations. Si Dieu nous disait ce matin, en tant que nation, en tant que son peuple, avant le réveil, il y aura un jugement sévère, comment allons-nous réagir? Mais Habakkuk termine en disant, même si tout s'effondre, les figuiers, les vignes, les troupeaux, l'économie, je me réjouirai à l'Éternel, car le juste vivra par la foi. Alléluia. Peut-être ce matin, vous dites, Seigneur, jusqu'à quand cette maladie? Jusqu'à quand ce chômage? Jusqu'à quand cette injustice? Jusqu'à quand cette crise familiale? Jusqu'à quand cette attente? Jusqu'à quand vais-je prier sans voir de réponse? Ça, c'est que Dieu n'est pas offensé par votre cri sincère. Mais il veut vous conduire d'une foi qui exige une réponse immédiate à une foi qui demeure fidèle dans l'attente. Alléluia! Dieu veut vous conduire vers une foi qui exige une réponse immédiate à une foi qui demeure fidèle pendant l'attente. Le jusqu'à quand, ce n'est pas le dernier mot du croyant. Ce n'est pas le dernier mot du chrétien. Le dernier mot du croyant, c'est toutefois, je me réjouirai à l'Éternel. Alors, bien-aimés, commençons à prier d'abord pour la gloire de Dieu. Commençons à prier pour sa majesté, sa splendeur, commençons à prier pour le nom de Dieu et faisons confiance à son plan. Même lorsqu'il diffère du nôtre, même lorsqu'il tarde à répondre, bien-aimé, car Dieu agit d'une manière incompréhensible à l'homme, mais de manière parfaite. Amen. Alléluia. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes pas, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur, garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur, garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Est-ce que ce matin, nous voulons prier pour la gloire de Dieu? Nous voulons prier pour que Dieu seul soit reconnu dans nos vies d'abord. Pour que Dieu seul soit honoré. Voulons-nous élever nos voix pour dire, Seigneur, oui, nous t'aimons. C'est toi que nous aimons. Oui, c'est toi que nous voulons voir honoré dans nos vies. Oui, Seigneur, c'est toi que nous voulons suivre. Peu importe les moments. Peu importe, Seigneur, que tu répondes ou que tu ne répondes pas maintenant, mais nous voulons te demeurer fidèles. Nous voulons nous réjouir en toi. Est-ce que nous pouvons nous lever et parler au Seigneur ce matin? Levons-nous et parlons au Seigneur ce matin. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours.
Alléluia.
Seigneur, enseigne-moi.
Seigneur, c'est toi qui es le
bon homme.
Alléluia. Prie ton Dieu. Dis-le-lui. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux pas aller loin de toi. Seigneur, je veux marcher au Dieu de gloire dans l'humilité. Je veux au Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, demeurer près de toi, Jésus. Il n'y a pas mieux que s'approcher toujours continuellement de toi, Jésus. Et ce matin, oh Dieu de gloire, tu m'interpelles, oh Dieu, par ces messages sur Habakkuk, oh Dieu. Lui qui priait, qui s'est soucié de lui-même, oh Dieu. Lui qui s'est posé tant de questions sur les jusques à quand. Mais ce matin, tu nous parles, Seigneur. Ce que tu veux, c'est nos vies, Seigneur. Ce que tu veux, c'est notre adoration. Ce que tu veux, c'est ce que nous puissions demeurer près de toi. Ce que tu veux, c'est ce que nous puissions rester à tes côtés, dans tes parvis, Jésus. Parce que, Seigneur, mon Dieu, il n'y a pas mieux que dans ta présence. Il n'y a pas mieux que rester tout près de toi. Seigneur, tu es bon. Garde-moi près de toi. Garde mon cœur près de toi. Je vais mettre mon énergie à, Seigneur, à te chercher. Je vais passer tout mon, mettre mon temps, Dieu, à rechercher ta face, oh Dieu. Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Seigneur, tu es bon. Bien, mais ce matin, l'Éternel a parlé. Il a parlé à un cœur ce matin. Et ce matin, tu te sens interpellé par sa parole. Ce matin, tu te sens touché par ce message. Et tu voudrais que nous puissions prier ensemble avec vous. Là où nous sommes, puisque nous sommes debout, levons seulement notre main. En signe d'humilité, nous allons prier ensemble. Tu connais ta marche. tu connais la manière dont tu vis, tes préoccupations, ton énergie, tu sais en quoi tu le places. Mais ce matin, tu veux qu'on prie ensemble. Tu veux revenir à Dieu, changer l'attitude comme Habakkuk. Tu veux avoir un cœur humble. Tu veux adorer Dieu, tu veux rechercher sa gloire. Tu peux lever les bien haut de ta main et nous voulons prier ensemble. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour le mec qui s'élève. Merci Jésus. Pour ta honnêteté. Alléluia. Précieux Père Céleste, nous sommes debout tous ce matin. Tu as parlé et tu as dit, vous n'avez pas à me blâmer. Vous n'avez pas à me blâmer. Tout ce que je vous demande, c'est de vous rapprocher de moi. Rapprochez-vous de moi. Oui, Seigneur, nous disons Amen. Amen, nous venons devant toi. Ce matin, pour que plus rien ne nous arrête de demeurer près de toi. Même quand nous ne comprendrons rien, même quand nous serons confrontés à d'autres réalités. Mais Seigneur, tes plans demeurent insondables. Merci pour cette parole ce matin. Elle est venue pour nous donner l'assurance de ce que tu es le patron du temps. Oui, nous mesurons nos amens à partir de ce message. Nous ne dirons pas Amen à tout va, mais nous dirons Amen à ta parole, car celle-ci doit être obéie. Oui, tu as dit dans ta parole, mais craindre, c'est ça la sagesse. Alors ce matin, Seigneur, dépose en nous la sagesse, qui est la crainte de ton nom. Béni sois-tu, toi qui as conduit ton serviteur, pour déposer cette onction de la parole en nos cœurs. Je sais que l'ennemi peut encore susciter d'autres questions. Le jusqu'à quand tombe ce matin? Le jusqu'à quand tombe ce matin au nom de Jésus? Et en nous demeurera jusqu'à l'éternité. Le juste se fortifie et s'attend dans la foi en son Seigneur. Merci de bénir cette parole et de bénir ton serviteur. Au nom de Jésus.
Amen. Laissez-moi acclamer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci, Pasteur Pierre.